おかしい、おかしい。
Derniers accords signés entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Sur quoi portent ces accords? Que gagne chacun des deux pays RDC et Afrique du Sud dans ces accords? Voilà les principales questions de ce dialogue entre Congolais. Vos questions, chers auditeurs, seront aussi débattues. Ndoko Lele de Mbandaka, l'Équateur, pense que ce n'est pas la première fois que la République démocratique du Congo signe des accords avec l'Afrique du Sud. À quand l'exécution de ces protocoles? Sam de Kindu Omanima demande si ces accords ont-ils été signés sous conditions, si oui, lesquels et pourquoi. Et pour répondre à vos préoccupations, nous recevons pour vous l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, M. Ben Poko. Il est au téléphone depuis Pretoria, l'Afrique du Sud. Nous avons aussi Jean-Baptiste Bomanza. Il est membre de l'opposition et conseiller politique du président de l'Union pour la Nation. Nous devrions avoir un analyste dans cette émission, le professeur en relations internationales et doyen de la faculté des sciences sociales à l'UNIKIN, Labana Lassai Abar. Toutes nos excuses, nous n'aurons pas le professeur Labana pour un problème de ligne téléphonique. À tous, nous disons bonsoir et bienvenue dans cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi, de 14h à 20h, heure de Kinshasa, au 099-899-222.
Sur quoi portent les accords signés récemment entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud? Le président de la République du Congo, Joseph Kabila, et son homologue sud-africain, Thabo Mbeki, ont signé mardi 21 dernier à Kinshasa plusieurs accords de partenariat. Le point sur le contenu de ces accords avec Kéline Couté.
Ces accords, qui s'inscrivent dans le cadre de la 4e session de la Grande Commission mixte RDC Afrique du Sud, concernent notamment le domaine de la défense et sécurité, de la politique et bonne gouvernance, l'économie, les finances et infrastructures, ainsi que le secteur social et humanitaire. Selon Antipas Mboussanyamissi, ministre d'État en charge des affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC, ces assises ont offert aux deux parties l'opportunité d'évaluer les niveaux d'exécution des 28 accords de coopération déjà signés entre les deux pays, ainsi que le recadrage des actions à mener. Cela, a-t-il soutenu, passe par le renforcement du mécanisme de suivi et d'évaluation de l'exécution de ces accords bilatéraux. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à tout mettre en œuvre pour que ces accords déjà signés nécessitant une ratification préalable à leur exécution soient ratifiés le plus tôt possible. Pour rappel, l'Afrique du Sud, qui a délégué à ses travaux de la Grande Commission mixte une douzaine de ministres et une importante représentation d'experts, a déjà conclu l'an dernier avec la République démocratique du Congo près de 28 accords de coopération. Ces accords portaient sur les infrastructures, les mines, l'agriculture, les hydrocarbures, la recherche scientifique, l'éducation, les télécommunications, l'énergie et la fonction publique. C'est dans le cadre de ces 28 accords que l'Afrique du Sud a conclu avec la RDC, notamment dans le domaine de l'énergie, un contrat pour la réhabilitation du barrage Dinga. De même, Pretoria est aux côtés de la RDC dans la formation des unités de la police.
Jean-Baptiste Bomanza, vous êtes membre de l'opposition politique et conseiller politique donc du président de l'Union pour la Nation. Comment vous jugez le contenu des accords signés entre la RDC et l'Afrique du Sud?
Ouais, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous nous offrez. Je vais commencer à répondre en partant de ce que vient de dire madame tout à l'heure là. C'est la 4e session de la commission mixte. Et on nous dit qu'il y a eu déjà 26 accords qui ont été signés. Et lorsqu'il faut interroger le paramètre en présence sur le terrain, une question nous vient à l'esprit. Ces accords qui ont toujours été signés, sont-ils en faveur de notre pays ou ce sont des accords qui ne privilégient qu'une des parties? C'est ça la question fondamentale. Et répondant à cette question fondamentale, et interrogeant les paramètres en présence sur le terrain, plus particulièrement en ce qui concerne la fonction publique, nous savons tous qu'il y a eu un contrôle qui a été initié sous l'expertise de l'Afrique du Sud au niveau de la fonction publique. Nous nous sommes rendus compte que ce contrôle-là a apporté plus de problèmes qu'il n'a apporté de solution. Au jour d'aujourd'hui, il y a au niveau de la fonction publique, par exemple, des gens qui ont fait 15, 20 ans de service, qui ont été écartés de la liste des fonctionnaires de l'État. Et nous avons vu, lorsqu'il fallait procéder à ces contrôles-là, au lieu de prendre des personnes aguerries, on est allé recruter les étudiants qui n'avaient aucune expérience en la matière. Donc, nous pouvons dire que ces accords-là profitent plus à la République sud-africaine qu'à notre pays. Si nous prenons le cas des accords du point de vue énergétique, c'est depuis très longtemps que nous apprenons que les experts de l'Afrique du Sud sont déjà à Inde. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le délestage continue toujours à avoir le droit de cité dans notre pays. Entre-temps, ce courant est exporté et au détriment même du souverain primaire congolais. Donc, au regard des paramètres en présence sur le terrain, nous pouvons nous permettre de dire sans crainte d'être contredit que ces accords-là sont plus favorables à la partie adverse qu'au Congo, notre pays.
Alors, nous avons en ligne depuis Pretoria, M. l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, M. Ben Poko. Vous venez de suivre là Jean-Baptiste Bomanza, qui est de l'opposition, qui dit que notamment au sujet de ces accords, quand on voit le secteur comme la fonction publique, l'assistance sud-africaine ne se fait pas sentir, parce que selon lui, il y a encore des problèmes, et que sur le plan énergétique, des experts sud-africains seraient déjà à Inga, donc au barrage d'Inga, mais les effets ne se ressentent pas au niveau de la fourniture en courant électrique et il ajoute que ces accords profitent plus à l'Afrique du Sud et là nous y reviendrons en fait dans la dernière partie pour savoir que gagne l'un et l'autre pays. Mais déjà à ce niveau, c'est l'ambassadeur Ben Poko, qu'est-ce que vous pouvez répondre?
Oui, merci beaucoup. Écoutez, lorsque les deux pays se décident de coopérer dans plusieurs domaines, il y a toujours des secteurs qui vont aller de l'avant, il y a des secteurs qui vont produire des résultats probants, et puis il y a des secteurs peut-être qui ne produisent pas des résultats du tout. Ça, c'est une œuvre, c'est une œuvre humaine, et dans chaque œuvre humaine, vous allez trouver des failles. Mais ce que je regrette, c'est que quand les gens émettent ce genre d'opinion, apparemment, ils n'approfondissent pas la réflexion. Prenons par exemple Inga. Vous savez que Inga n'a pas été réhabilité depuis que ce barrage a été construit peut-être dans les années 70. Et c'est la première fois après une quarantaine d'années, c'est la première fois qu'on touche à la réhabilitation de Inga. Dans Inga, il y a 12 turbines. Au moment où nous parlons, il y a que 6 qui fonctionnent. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Je ne sais pas si votre interlocuteur a été déjà à Inga, a vu la taille de cette turbine-là. Ça prend des années pour réhabiliter une seule tribune. Il a bien dit, les experts sud-africains viennent d'arriver seulement sur le terrain. Quand on réhabilite une tribune, ça ne veut pas dire que l'électricité va couler, parce qu'il faut aussi réhabiliter les lignes de transmission. Il faut aussi, au niveau de la distribution dans une ville, refaire les infrastructures. Donc il faut bien approfondir la réflexion avant de critiquer une œuvre, parce que si vous n'êtes pas expert dans ce domaine, c'est vraiment dangereux d'improviser comme ça des critiques sans pour autant connaître les aspects techniques. Les Sud-Africains d'ailleurs ne sont pas Inga, c'est une société canadienne qui s'appelle Mag Energy, qui est en train de réhabiliter 2 des 4 turbines. Ils ont signé le contrat avec le ministère de l'Énergie il n'y a pas longtemps. Donc, au moment où nous parlons, il n'y a pas un seul expert sud-africain. C'est une société canadienne qui s'appelle Mag Energy. C'est ainsi que je dis, avant de critiquer, c'est bien de posséder la matière pour que vous puissiez éclairer l'opinion. L'opposition a aussi le devoir de bien éclairer l'opinion au lieu de créer la confusion. Concernant la fonction publique, on a recensé les agents de l'État. On a trouvé qu'il y avait des agents fantômes. C'est une situation qui dure depuis 60. Il y a un pays européen qui avait pris l'initiative de nous aider dans ce secteur-là. Ils ont abandonné le projet. Les Sud-Africains sont arrivés, ils ont fait les recensements, non seulement des agents de l'État, ils ont fait les recensements de la police et de l'armée. Parce que vous avez des agents fantômes là-dedans. Donc, s'il y a eu des problèmes administratifs par-ci par-là, c'est tout à fait normal. On doit les corriger. Mais l'Afrique du Sud n'y gagne rien. Ils ont dépensé de l'argent, ils ont envoyé des experts. C'est le Congo qui peut en profiter aujourd'hui. Parce que si nous n'avons pas le nombre exact des agents de l'État, de la police, de l'armée, il est difficile de les payer correctement. Il est difficile d'avoir un système d'assurance médicale parce qu'on ne connaît pas le nombre exact de ces agents. Il est difficile d'avoir un système de pension. Vous voyez, donc il faut commencer quelque part. Parce que le mal est profond, il faut commencer quelque part pour les corriger. Donc, critiquer pour critiquer, moi je crois que c'est pas ça l'attitude que nous devons adopter. Vous savez que l'Afrique du Sud nous accompagne depuis le dialogue intercongolais, depuis 106. C'est un pays qui se dit ceci, et le président Mbeki le répète tous les jours. Sans un Congo stable, l'Afrique ne va pas décoller sur le plan économique. Tout le continent africain attend le Congo pour décoller, pour démarrer économiquement. Donc, c'est ainsi que l'Afrique du Sud s'est investie. Bien que c'est un pays en voie de développement, l'Afrique du Sud n'est pas un pays développé. C'est un pays en voie de développement comme nous. Mais elle s'est beaucoup investie pour nous aider à accomplir le dialogue terminé en beauté, le dialogue intercongolais. L'Afrique du Sud nous a aidés pendant des élections, tout le monde a suivi le processus électoral. L'Afrique du Sud a fait le brassage, nous a aidés dans le système de brassage de l'armée, dans la formation de la police, ainsi de suite.
Oui.
Donc c'est un pays qui est décidé à nous accompagner pour que on sorte de la crise actuelle.
Oui. Une précision,
bon, je l'ai dit, comme toute œuvre humaine, vous allez trouver des faiblesses par-ci par-là. Mais ne nous concentrons pas sur les faiblesses, voyez aussi le côté positif de cette coopération.
Oui, monsieur l'ambassadeur, une précision.
En tant que votre représentant ici, je crois que cette coopération est largement positive.
Monsieur l'ambassadeur Benpoko, une précision. Vous avez dit que pour le cas de Inga, c'est une société canadienne qui est là. Est-ce que ça veut dire que dans les accords signés, il n'y a pas un volet énergie?
Non, mais ça vient d'être signé. Il y a un projet d'énergie, ça va être signé. Mais c'est une chose de signer un accord, c'est autre chose de l'exécuter. L'exécution, il faut avoir un plan d'exécution, il faut mobiliser des ressources, ainsi de suite. Nous avons par exemple, vous avez en Inga, vous avez Inga 1, Inga 2, c'est l'existant. C'est l'Inga actuel, c'est l'Inga 1, Inga 2, et qui totalise 12 turbines et qui devait produire à peu près 1785 kW.
Mmh.
Vous avez aussi Inga 3. Le Inga 3, c'est un consortium de 5 pays de la SADC. Il y a le Botswana, il y a l'Afrique du Sud, il y a la Namibie, il y a nous-mêmes et puis il y a l'Angola. Ils ont créé un consortium pour développer Inga 3. C'est un barrage, c'est un site qui va nous donner entre 3500 et 4000 MW. Et puis vous avez les grands Inga. Le grand Inga est encore au niveau des études. Ça va produire 40 000 MW. Et avec Inga, les grands Inga, on peut électrifier l'Afrique.
Et donc,
tout le continent africain.
Oui, donc,
il faut approfondir la chose pour bien connaître ce qui se passe. Donc, les accords qu'on vient de signer dans le secteur de l'énergie, qui composent certainement Inga, il y a des accords sur l'électrification rurale. Nous allons à l'Afrique du Sud, on a signé l'électrification de Kimbanseke pour tester le système de mettre peu payé. Parce que la semaine a des problèmes de collecte des fonds. Lorsque les clients n'étaient pas, on dit, bon, pourquoi pas émettre les compteurs prépayés comme on fait avec les téléphones cellulaires.
Oui, monsieur l'ambassadeur.
Vous achetez vos unités, vous les utilisez à l'épuisement, bon, l'électricité s'arrête. On va tester ça, on va faire un projet pilote à Kimbanseke.
Oui, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur Benpoko, pour vous résumer, vous dites... Monsieur l'ambassadeur, voilà. Pour vous résumer, vous dites que il faut que Monsieur Bomanza, qui est votre intervenant, qui est en face de vous, il faut qu'il arrive à maîtriser notamment des aspects techniques avant de critiquer les aspects ou même les accords qui ont été signés récemment entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Jean-Baptiste Bomanza, vous avez suivi là l'ambassadeur Benpoko qui vous demande évidemment de pouvoir approfondir un peu les aspects techniques de ces accords pour le cas de l'énergie. Qu'est-ce que vous dites?
Oui, merci beaucoup. Je suis avec beaucoup d'attention l'ambassadeur Ben Foko. Je me demande si lui-même maîtrise tous ces accords-là. Et parce que moi, je suis en train de vivre les réalités sur le terrain. La situation concernant les accords, à première vue, ne requiert pas une expertise quelconque. Parce qu'à partir du moment où on est suffisamment formé, on est instruit, on peut savoir juger les accords conclus par rapport à leur impact sur le terrain. Et ici, M. l'ambassadeur dit que l'Afrique du Sud nous accompagne depuis le dialogue intercongolais. Nous sommes bien d'accord. Il faut que l'ambassadeur se mette en tête que dans le concert des nations, les pays n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts à défendre. Je me pose bien la question de savoir si M. l'ambassadeur est en train de défendre les intérêts du Congo comme il se doit. Et il parle de la société canadienne. Vous lui avez posé la question tout à l'heure là de savoir si dans les accords, il n'y avait pas l'aspect énergie. Et il a répondu par l'affirmative. Alors la question qu'il doit encore, à laquelle il doit encore répondre, c'est celle de savoir, est-ce que le Congo a conclu des accords avec la société canadienne ou avec la République sud-africaine? Et ici, c'est la République sud-africaine qui aurait utilisé cette société comme sous-traitant. Ça, c'est pas le problème du Congo. Donc, il a évoqué le problème de brassage de l'armée. Mais quelle est l'image de notre armée aujourd'hui? L'Est continue à être le bourbier. Et pas plus tard que ce soir, j'ai suivi à travers la radio Capi, il y a eu affrontement entre les éléments des fondateurs et les éléments de FARDC. Il faut que l'ambassadeur se mette en tête une chose. Jusqu'en 1965, le Congo, notre pays, avait un niveau de vie supérieur par rapport à l'Afrique du Sud. Les Africains du Sud venaient se faire soigner ici et nous avions le même niveau de vie que le Canada, dont la société est utilisée dans le cadre de l'INGA et dans le cadre des concerts des nations. L'Afrique du Sud n'a pas intérêt à voir les géants Congo se relever. Et si l'ambassadeur ne facilite pas la tâche au gouvernement congolais, ce serait tout simplement regrettable. Il a parlé de consortium ou de pays de SADC, donc le pays de la SADC. Oui, et nous disons que oui, mais maintenant, qu'est-il le Congo comme profit à travers tous ces accords-là? Je suis en train de demander à l'ambassadeur de se remémorer un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où le président de qui était facilitateur. Donc, il connaît la suite que les Ivoiriens ont réservé au président de qui. Donc ici, nous pensons que les Congolais doivent ouvrir l'œil et le bon. Nous acceptons la coopération avec les autres, mais nous ne voulons pas qu'il y ait une coopération qui puisse mettre le Congo à genoux. L'Afrique du Sud est un des piliers, ou si vous voulez bien, un des leaders des quatre pôles de développement en Afrique. Et en particulier ici, l'Afrique du Sud est le leader du pôle de l'Afrique australe. Là, ils sont déjà debout. Mais il faut aussi que l'Afrique du Sud puisse faciliter la tâche au Congo, même s'il y a des turbulences. Je crois que l'Afrique du Sud a intérêt de voir le Congo se relever au vrai sens du terme, au lieu qu'elle ne puisse voir que ses intérêts. Il parle de communication et consorts. Et nous savons comment se déroulent ces affaires-là dans le cadre de la communication. Si nous pouvons citer une société comme Vodacom, qui est une société sud-africaine, vous savez, au jour d'aujourd'hui, Vodacom déclare Prince sans rire qu'elle a déjà plus de 2 millions d'abonnés. Mais du point de vue de retomber sur le plan social, qu'est-ce que les Congolais prélèvent comme avantage?
Ouais, on va voir ça dans la dernière partie, Monsieur Bomanda. Je rappelle à ceux qui viennent de se brancher sur Radio Capi, c'est bien votre émission Dialogue entre Congolais, le thème « Derniers accords signés entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud ». Sur quoi portent ces accords et que gagnent ces deux parties en signant ces accords? Nous recevons comme invité l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, M. Ben Poko. Nous avons aussi Jean-Baptiste Jean-Baptiste Bomanza, membre de l'opposition et conseiller politique du président de l'Union pour la Nation. Nous devrions avoir le professeur Labana Assaï Abar, doyen de la faculté de sciences sociales et professeur en relations internationales à l'Université de Kinshasa. Mais nous ne pouvons pas avoir le professeur pour un problème de ligne téléphonique. Nos invités ont déjà réagi donc sur le premier volet de cette émission. Que gagne chacun de ces deux pays dans ces accords? C'est ce que nous verrons dans le dernier volet de cette émission. N'hésitez pas à réagir.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Que gagnent la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud dans les accords signés par les deux pays la semaine dernière? René Capita nous retrace l'ambiance lors de la signature de ces accords ici à Kinshasa.
Après les vœux de bienvenue à son homologue sud-africain et à toute la délégation sud-africaine, le chef de l'État congolais a souligné que ces assises se tiennent à un moment très particulier pour la RDC. C'est là dans la mesure où, grâce à la volonté de ses dirigeants et à l'engagement de la population et des pays amis, la RDC retourne peu à peu dans les concerts des nations stables. Joseph Kabila a par ailleurs noté que le gouvernement est déterminé à mettre tous les moyens politiques, diplomatiques ou militaires pour le retour définitif de la paix et la restauration de l'État de droit. Le président Kabila a aussi souligner les défis pour les deux gouvernements et mobiliser les ressources nécessaires pour la concrétisation des accords conclus entre les deux pays. Car, a-t-il souligné, le peuple attend plus des actes et des solutions à ses problèmes plutôt que des bonnes intentions. Défi que le président sud-africain a également souligné. Pour Thabo Mbeki, il est d'une importance capitale que ces accords soient concrétisés, compte tenu de l'importance de la RDC dans la régénération de l'Afrique entière.
Monsieur l'ambassadeur Ben Foko, je rappelle que vous êtes ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. Vous intervenez depuis Pretoria. Vous avez suivi Jean-Baptiste Bomanza, qui, lui, n'hésite pas à dire que les accords signés entre les deux pays profitent plus à la République sud-africaine. Qu'est-ce que vous en dites?
Bon, c'est un peu regrettable parce qu'il me semble que mon frère là n'a même pas lu cet accord-là quand il dit que la société canadienne et Kietainga fait la sous-traitance d'une société sud-africaine. C'est quelqu'un qui n'a pas, il fallait quand même lire les dossiers avant de tenir de tels propos parce que ce n'est pas vrai. Quand on a signé ces accords n'ont rien à voir avec Inga, n'ont rien à voir avec l'exécution de certains projets, parce que ça, c'est un contrat qui est signé entre le gouvernement souverain de la République démocratique du Congo et une société donnée. Donc, ça n'a rien à voir avec les accords de coopération. Tout ce que je voulais dire, c'est quand on dit que tout ce que l'Afrique du Sud est fait chez nous est mauvais, c'est un peu pour dire, parce que ça, c'est, je m'excuse, je suis diplomate, je veux utiliser un langage un peu plus serein, mais je crois que c'est une ingratitude. Je crois que le peuple congolais devait être reconnaissant par les efforts qui ont été fournis par le président Mbeki, son gouvernement et le peuple sud-africain. Parce qu'ils se sont sacrifiés. C'est pas un pays développé, c'est un pays en voie de développement comme lui. Il a bien dit qu'à un moment donné, on avait des revenus qui étaient supérieurs aux revenus de l'Afrique du Sud. Ils ont fait des efforts, ils nous ont dépassés aujourd'hui et ils essaient de nous aider. L'enjeu majeur de l'Afrique du Sud dans cette coopération, c'est de voir une Afrique développée. Si le président Mbeki se mêle en Côte d'Ivoire, à Darfour, à ceci et cela, c'est à la recherche des solutions de paix et de stabilité pour que ce continent aille de l'avant. Nous sommes le continent le moins développé dans le monde et je crois que les amis sud-africains aimeraient quand même porter leur petite contribution pour que ce continent se stabilise. Alors, celui, les Congolais qui ne reconnaissent pas les efforts fournis par l'Afrique du Sud dans le processus de stabilisation de notre pays, je trouve que c'est vraiment une ingratitude. Nous devrons, même si nous voulons critiquer le gouvernement, mais on devrait quand même être reconnaissant si quelqu'un nous a rendu service. Le peuple congolais, c'est un peuple hospitalier et généreux. Et je crois que ça serait mal vu de dire que jusqu'ici, l'Afrique du Sud nous a rien apporté. Parce que eux, ils gagnent, nous, parce que nous vivons des réalités. Le mal du Congo est tellement profond qu'on ne pouvait pas, du jour au lendemain, se trouver dans un pays développé.
Oui,
ça va prendre du temps. Le processus du développement prend du temps. Il faut s'aimer aujourd'hui les semences pour qu'on puisse avoir une bonne récolte demain.
Oui, monsieur l'ambassadeur, excusez-moi.
Parce que le président Bekki nous a rendu visite et qu'on va se réveiller demain, qu'on trouve les autoroutes, les ports, les aéroports rénovés, c'est un peu trop... C'était naïf.
Oui. Monsieur l'ambassadeur, excusez-moi, il y a des questions des auditeurs, notamment Homozam Weji, il est de Kananga au Kasaï occidental. Il pose un peu, c'est presque la même question, il demande quel pays va le plus bénéficier dans les accords de partenariat signés entre la RDC et l'Afrique du Sud. Et finalement, dites-nous un peu, selon vous, que gagne la RDC dans ces accords et que gagne l'Afrique du Sud?
Bon, d'abord, le principe de coopération est le suivant. C'est le principe, ce qu'on appelle en anglais, le principe de win-win, c'est-à-dire chacun retrouve son compte. Tout le monde y gagne, hein, on gagne quelque chose.
La RDC gagne quoi, par exemple?
Lorsque l'Afrique du Sud décide de nous imprimer le bulletin de vote, lorsque l'Afrique du Sud nous aide à organiser les élections avec le concours bien sûr de la communauté internationale, qu'est-ce que l'Afrique du Sud? Nous gagnons, on a fait les élections qui ont été appréciées par tout le monde. Bon, qu'est-ce que l'Afrique du Sud gagne? L'Afrique du Sud gagne ceci, la paix dans la sous-région de la SADC. Parce que s'il n'y a pas de paix au Congo, tous les Congolais vont se verser en Afrique du Sud. J'ai aussi, vous avez la diaspora congolaise en Afrique du Sud, c'est la diaspora la plus importante dans le monde. Il y a au moins 100 000 Congolais en Afrique du Sud. Et il y a aussi, il y a les sans-abri, il y a des gens, il y a des aventuriers qui viennent ici, il y a des gens qui ne trouvent pas le travail au Congo, donc ils viennent en Afrique du Sud pour trouver l'asile, pour trouver l'emploi, pour trouver l'éducation et tout ça. Si le Congo se stabilise, l'Afrique du Sud y gagne parce qu'ils n'auront pas cette immigration. La migration des gens qui viennent chercher de l'emploi et tout ça. Voilà ce qu'ils gagnent. Alors, si on nous aide à faire marcher Inga, qu'est-ce que l'Afrique du Sud gagne? L'Afrique du Sud va importer moyen à paiement parce que c'est pas gratuit. Quand on exporte, on gagne les devises et le Congo, Dieu seul sait, a besoin des devises. Donc, nous exportons l'électricité et il achète. Donc, tout le monde y gagne. Si aujourd'hui, l'Afrique du Sud se décide de nous envoyer parce qu'on est en train de négocier un accord agricole pour que l'Afrique du Sud vienne nous aider à relancer notre production agricole. Il est prévu même l'envoi des fermiers sud-africains dans notre pays. Mais qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons la croissance économique, l'organisation, l'amélioration de notre agriculture. Et l'Afrique du Sud, il gagne aussi parce qu'ils vont importer les produits agricoles qui seront produits chez nous. Donc tout le monde y gagne. Si vous examinez chaque accord par accord, ligne par ligne, vous trouvez que les deux parties gagnent. Chacun y gagne.
Oui, merci. Donc,
dans un monde qui se globalise, il faut qu'on compare avec d'autres pays. C'est tout à fait normal.
Merci, M. l'ambassadeur. Jean-Baptiste Bomanda, vous êtes, vous, de l'opposition politique, membre de l'Union pour la Nation. Vous avez suivi l'ambassadeur Ben Poko. Pour lui, c'est le principe win-win. Donc, les deux pays, chaque pays gagne, donc l'Afrique du Sud et la RDC. Il a parlé notamment de l'Afrique du Sud qui gagne quand il y a la paix dans la sous-région. Ça fait moins d'immigrés congolais, notamment, en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, en aidant la RDC à relancer Inga, elle peut importer le courant congolais. Elle peut aussi faire venir des fermiers sud-africains. Ça fait un plus pour l'agriculture congolaise. Est-ce que ça ne vous convainc pas, Jean-Baptiste Bomanza?
Donc, je crois que monsieur l'ambassadeur, en tant qu'ambassadeur, je le répète, que les États n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts à défendre. L'Afrique du Sud ne peut pas se comporter comme un pays qui se livre aux œuvres philanthropiques. Si l'Afrique du Sud s'attache à la coopération avec le Congo, c'est qu'elle a des avantages à tirer. J'ai comme impression que monsieur l'ambassadeur risque d'être en contradiction avec le président de la République. Parce que j'ai suivi tout à l'heure là, et le capital qui a cité le président de la République et qui a clairement dit que le peuple congolais attend plus la concrétisation que de bonnes intentions. Et lorsque moi, utilisant la praxis, interrogeant le terrain,
je donne raison au président de la République parce qu'il y a plus de déclarations d'intention que la matérialisation de ces accords sur le terrain en faveur du peuple congolais. Ça, il faudrait que l'ambassadeur le sache. Et nous pensons que le Congo gagnerait mieux lorsque l'ambassadeur joue son véritable rôle d'ambassadeur pour attirer de temps à autre l'attention du gouvernement congolais et pour que cette coopération avec l'Afrique du Sud soit une coopération qui profite aux deux États individuellement. Donc, en ce qui concerne la société canadienne, j'ai utilisé le conditionnel, j'ai dit qu'il se pourrait que cette société joue le rôle de sous-traitant. Donc, de ce côté-là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Donc, je suis en train de dire que la République sud-africaine est en train de privilégier plutôt ses intérêts. Et nous aussi, Congolais, nous avons intérêt aussi à pouvoir nous relever. Je soulignais un fait, tantôt que l'Afrique du Sud est parmi les quatre leaders au niveau des quatre pôles de développement en Afrique. L'Afrique du Sud, comme le Congo, sont des leaders au niveau des pôles de développement. Le Congo, notre pays, est leader au niveau de l'Afrique centrale. Et donc, l'Afrique centrale, aujourd'hui, est à genoux parce que le Congo n'a pas encore décollé. Et donc, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons le Nigeria qui a déjà décollé. Au niveau de l'Afrique du Nord, nous avons l'Égypte qui a déjà décollé. Vous voyez même du point de vue intégration économique, les choses semblent tourner. Et comme il se doit de ce côté-là, qui est de notre côté. Donc, du côté particulièrement de l'armée, parce que parmi ces accords, il y a aussi des accords qui concernent l'armée. Au jour d'aujourd'hui, quel est le visage de notre armée? Parce que nous ne pouvons juger l'impact de la coopération avec l'Afrique du Sud sur le plan militaire qu'au niveau de notre armée. Et je l'ai dit au début, s'il faut voir ce qui se passe à l'Est. Au jour d'aujourd'hui, j'ai encore suivi la radio Capi. Vous allez à la province orientale. Il y a, au niveau d'un district, une distance de plus de 150 kilomètres où il n'y a même pas un seul policier. Ce sont les démobilisés qui font la loi. Donc, où est l'impact de la coopération militaire avec l'Afrique du Sud? Au jour d'aujourd'hui, du point de vue de la fonction publique, on a encore mis en place une commission qui doit s'occuper des problèmes de la fonction publique. Mais le contrôle qui a été initié sous la houlette de l'Afrique du Sud a rendu quel service au Congo? Parce que tout ça, ce sont des dettes que le Congo va devoir payer. Et ici, nous, Congolais, nous ne pouvons pas être dupes. Et nous savons que M. l'ambassadeur est là, il est peut-être familiarisé au gouvernement sud-africain. Ce que nous pouvons lui demander, c'est de jouer son véritable rôle d'ambassadeur. Nous, bien sûr, je suis de l'opposition, mais le peuple, nous avons suivi l'intervention d'un auditeur, de Kananga, même de Mbandaka. Nous ne voyons pas l'impact de cette coopération sur le terrain. Et ce que nous voulons est que l'ambassadeur qui vit en Afrique du Sud puisse donner des stratégies adéquates au gouvernement congolais afin que le gouvernement puisse signer des accords qui puissent profiter à notre pays. Donc nous ne voulons pas que nous puissions demeurer dans ce qu'on appelle, dans le vocabulaire développemental, la continuité dans les changements. Donc nous sommes en train de nous rendre compte que vraiment nous ne tirons rien comme profit lorsque l'Afrique du Sud va importer du courant d'Inga. Mais les bénéfices, ces industries vont fonctionner en plein rendement.
Merci,
nous allons démarrer avec le délestage qui ne cesse de préjudicier le peuple congolais, surtout la capitale, pas plus tard que hier je suis vu à travers la télé. Il y a des immeubles qui ont été incendiés. Tout ça, c'est la conséquence du délestage.
Merci, Jean-Baptiste Bomanza.
Les victimes.
Jean-Baptiste Bomanza, merci. Je signale aux auditeurs que cette émission Dialogue entre Congolais porte sur les derniers accords signés entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Et nous recevons dans cette émission, nous recevons l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, M. Ben Poko. ainsi que Jean-Baptiste Bomanza, membre de l'opposition et conseiller politique du président de l'Union pour la Nation. Ils sont tous au téléphone. Nous devrions voir le professeur Labana, mais pour des raisons de ligne téléphonique, nous n'avons pas le professeur Labana, professeur en relations internationales, dans cette émission. Nous poursuivons donc le cours normal de cette émission avec d'autres questions des auditeurs. Monsieur l'ambassadeur Ben Poko, nous avons un auditeur de Mbandaka, il s'appelle Ndoko Lele. Il dit, ce n'est pas la première fois que la RDC signe des accords avec l'Afrique du Sud. À quand l'exécution de ces protocoles? Un autre auditeur, Boniface Dissiro en province orientale, souhaite, je cite, que nos dirigeants doivent nous prouver que les accords qu'ils signent actuellement seront différents de ceux qu'ils avaient signés avant les élections. Monsieur l'ambassadeur Ben Poko, vous êtes ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. En fait, ce n'est pas la première fois que la RDC signe des accords avec l'Afrique du Sud. Vous-même, vous l'avez rappelé que c'est il y a près d'une trentaine d'accords déjà signés depuis 2006, mais apparemment le bilan semble rejoindre les préoccupations de Jean-Baptiste Bomanza qui vous dit qu'il ne voit pas encore d'impact de cette coopération sur terrain.
Non, ce sont des questions pertinentes. Nous tous, nous cherchons des solutions pour faire sortir notre pays du marasme économique actuel. Ça, c'est l'objectif de tout Congolais qui aime son pays. Moi, en tant que votre ambassadeur, j'amène l'Afrique du Sud, je négocie les accords pour que, tout en espérant que cet accord va nous apporter sur le terrain un résultat positif. Mais l'Afrique du Sud ne dirige pas le Congo. C'est pas l'Afrique du Sud qui dirige notre armée. C'est pas l'Afrique du Sud qui dirige notre police. C'est nous qui dirigeons le Congo. C'est nous qui dirigeons la police. C'est nous qui devons choisir comment canaliser l'apport ou l'assistance de l'Afrique du Sud. Votre interlocuteur a dit que nous devons rembourser tout ça. Cet assistant ne nous coûte rien en termes monétaires. Ce ne sont pas des prêts. Ce sont des dons que l'Afrique du Sud nous amène, donc il y a lieu de préciser tout cela. Bon, si quelqu'un vient vous aider, hein, si un médecin vous souscrit un médicament et que vous ne l'utilisez pas comme il se doit, et que vous avez des difficultés, ce n'est pas la faute du médecin, mes chers compatriotes. Hein, il ne faut pas que l'Afrique du Sud vienne diriger l'armée, diriger la police, diriger l'agriculture, diriger l'INDA, diriger en lieu et notre place. Je suis un peu perdu parce que je ne comprends pas l'attitude de votre interlocuteur qui veut que ce soit la faute de l'Afrique du Sud si une fucking assistante et son assistante n'a pas de résultats sur le terrain. L'Afrique du Sud ne dirige pas notre pays, monsieur Combatriot. C'est nous. Et nous devons avoir une responsabilité collective pour s'assurer que ces accords que nous signons portent quelque chose en bien. Je vous cite l'exemple d'autres accords qui viennent d'être signés. La Banque sud-africaine de développement vient de mettre à notre disposition 200 millions de dollars pour financer les projets prioritaires selon les 5 chantiers du chef d'État. Mais c'est à nous aujourd'hui de choisir ces projets-là, de soumettre des dossiers bancables à la Banque de développement pour avoir accès aux fonds. Voilà. C'est là l'Afrique du Sud de venir faire des études de faisabilité, consulter des dossiers et les soumettre à leur banque de développement. C'est ça qui est la responsabilité des Congolais.
Voilà, merci monsieur l'ambassadeur. Nous vous gardons encore dans cette émission, monsieur l'ambassadeur Ben Poko, l'Afrique du Sud. Place maintenant aux auditeurs pour d'autres opinions, pour d'autres de leurs opinions avec vous qui écoutez.
Adolphe de Calais au Nord Kivu demande pourquoi signer des accords chaque fois alors qu'on ne voit jamais des résultats positifs. Antoine de Kinshasa pose la question suivante. À quand la concrétisation de ces accords et quelles garanties le gouvernement donne à la population dans l'application de ces derniers? Jérémy Kabongani de Bounia dans la province orientale veut connaître le but de ces accords entre la RDC et l'Afrique du Sud. Robert Baume de Bukavu Sud Kivu demande si on peut espérer cette fois-ci que ces accords porteront des bons fruits. Luanga de Boutembo au Nord Kivu pense que les Congolais ne bénéficieront rien de tous ces accords, qu'il n'ait pas confiance. Enfin, Roki Mutombo depuis Kolozi dans le Katanga demande est-ce que ces accords ont réellement un avenir prometteur.
Merci Kéline Couté. Jean-Baptiste Bomanza, vous avez suivi les opinions des auditeurs. la réaction aussi de l'ambassadeur Ben Poko. Comment est-ce que vous répondez? Je prends le cas de ces Congolais qui se demandent s'ils doivent espérer dans ces accords.
Oui, monsieur le journaliste, vous comprenez à travers les réactions des compatriotes qu'il y a le pessimisme par rapport à ces accords qui sont en train d'être signés, dans la mesure où, comme j'ai eu à le dire, il n'y a pas d'impact sur le terrain. Mais ici, je peux peut-être trouver une sorte de soulagement, dans la mesure où monsieur l'ambassadeur nous dit que ce n'est pas l'Afrique du Sud qui dirige le Congo. Donc, en d'autres termes, monsieur l'ambassadeur est en train de confirmer le fait que le gouvernement de la Troisième République, à travers ce premier pas, a fait faillite. Voilà pourquoi il y a une nécessité au jour d'aujourd'hui, parce que le gouvernement a fait faillite, il y a nécessité que tous, en regardant dans la même direction, que nous puissions nous asseoir autour d'une table pour nous dire pour nous poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui peut être fait pour que nous puissions laver l'humiliation que nous subissons au jour, comme j'ai eu à le dire. Nous pouvons prendre l'exemple de la Belgique, par exemple. Les Flamands sont majoritaires. Nous avons suivi que le Premier ministre qui devait mettre d'accord toutes les tendances politiques belges, elle n'a pas pu le faire, il a rendu le tablier. On le croit qu'au jour d'aujourd'hui, la solution réside à ce que les hommes qu'il faut soient placés à la place qu'il faut. Et l'ambassadeur a évoqué les élections. Et nous savons comment ces élections se sont déroulées. Et nous ne pouvons pas remuer le couteau dans la plaie. Nous savons quel a été l'impact négatif de cet apport à travers les élections. Il suffit seulement de voir le nombre de recours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ces élections ont poussé même la Cour suprême de justice, qui devait être au-dessus de tout soupçon, à pouvoir, en quelque sorte, se ridiculiser à travers certains arrêts et qui n'ont pas pu la placer à l'abri. Donc nous pensons que M. l'ambassadeur a compris. Dans la mesure où il dit que c'est pas l'Afrique du Sud qui dirige le Congo, c'est une interpellation à l'endroit des dirigeants. Donc nous disons qu'il est grand temps qu'au jour d'aujourd'hui, nous Congolais, parce qu'il n'y a pas eu réconciliation nationale, que nous puissions nous retrouver autour d'une table.
Merci,
pour voir dans quelle direction il faut suivre, faute de quoi le Congo va toujours être un pays non pas en voie de développement, mais un pays en voie de sous-développement.
Merci Jean Bomanza, Jean-Baptiste Bomanza, vous êtes membre de l'opposition. Monsieur l'ambassadeur Ben Poko, on revient à vous par rapport aux opinions des auditeurs. Il y en a, par exemple, qui demandent quelles garanties pour la concrétisation de ces accords entre l'Afrique du Sud et la RDC.
Bon, j'aimerais d'abord réagir. Je crois que M. Bomanza, il est en train de confondre les choses. Peut-être qu'il ne suit pas de près ce qui se passe. Les accords avec l'Afrique du Sud ont été signés en 2004, 2005 et 2006. Le gouvernement de la Troisième République, pour la première fois, vient de signer ces accords, trois accords seulement la semaine dernière. 28 accords ont été signés pendant la transition, monsieur. Il y a ce que trois accords qui ont été signés la semaine dernière, et vous pouvez pas me dire que ces accords ont été signés après dans moins d'une semaine, ces accords aient déjà un impact sur le terrain. Quand je dis que l'Afrique du Sud ne dirige pas le Congo, mais c'est évident, c'est certain, mais non, un enfant de l'école primaire serait d'accord avec moi, c'est les Congolais qui dirigent le Congo. Alors, quand je dis que c'est le Congolais qui dirige le Congo, vous voyez immédiatement la Troisième République, mais le Congo existe en tant que pays indépendant depuis 60, messieurs. Et les 28 accords ont été négociés et signés pendant la transition. Le gouvernement de transition vient de signer seulement trois accords. Et le chef d'État, cette fois-ci, a insisté, vous avez raison, il a dit qu'il faut que ces accords, l'ensemble des accords, aient un impact réel sur le terrain. Ainsi que l'Afrique du Sud vient de débloquer 200 millions de dollars à sa banque de développement pour financer le projet dans le chantier du chef d'État.
Oui, pour revenir aux questions.
L'Afrique du Sud va nous aider à créer une banque.
Oui, monsieur l'ambassadeur.
Aujourd'hui, n'a pas accès au crédit bancaire pour acheter une maison.
Oui, monsieur l'ambassadeur, juste pour revenir aux questions de l'auditeur, notamment celui qui demande des garanties pour la concrétisation de ces accords.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? La garantie vient en termes de quoi? La garantie vient en termes d'expertise dans l'exécution de ces accords. Voilà la garantie. Vous ne pouvez pas garantir ça autrement. La volonté, d'abord, il doit avoir la volonté de bien faire, et il doit avoir l'expertise nécessaire d'exécuter ces accords-là. Je viens de vous citer un exemple concret. Pour soumettre des dossiers bancables à la Banque de développement pour l'utilisation des 100 millions de dollars, il faut avoir une certaine expertise. C'est ça la garantie que ces projets qui seront soumis, qui seront financés par la Banque de développement, aura un impact. C'est la même expertise qu'on met en place.
Merci beaucoup, monsieur
l'ambassadeur. Les fermiers sud-africains viennent chez nous.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi aux invités. C'était là donc l'ambassadeur Ben Poko de l'Arabie Saoudite. Afrique du Sud. C'est terminé pour ce dialogue entre Congolais. Nadir Foula a tenu la réalisation. Mise en nom signée Alain Goy. Au revoir à tous.
Okapi, okapi.